Le monde en partage. Radio Centre-Ville. Thibaut Temmerman.
Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure consacrée à l'actualité internationale sur le 5FM. Après avoir dépeint le Brésil lors des deux précédentes émissions, voici une nouvelle émission en couleur, celle de l'arc-en-ciel en l'occurrence, puisqu'à l'occasion de la Semaine de la Fierté de Montréal, nous allons faire un petit tour du monde des droits humains des personnes LGBT. Petite précision pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers de cet acronyme, les LGBT désignent les personnes lesbiennes, gays, bi, ainsi que transgenres ou transsexuels. Nouvelle-Zélande, Uruguay, Brésil, France, sans oublier les États américains du Maryland, du Delaware, du Rhode Island, du Minnesota et de la Californie, bientôt l'Angleterre et le Pays de Galles, autant d'endroits où les couples de même sexe sont légalement reconnus depuis cette année. Pourtant, il reste encore des pays où les personnes LGBT sont persécutées, considérées comme des personnes malades, voire des criminels. Dès que l'on touche aux questions de société, il devient très délicat de peser sur un gouvernement afin qu'il change sa législation, car c'est le cœur de sa souveraineté. Des efforts sont néanmoins menés, y compris au sein de l'ONU. On retiendra par ailleurs qu'il existe une déclaration de Montréal des droits LGBT, prononcée lors de la conférence internationale sur les droits humains des LGBT qui s'est tenue au moment des Out Games en juillet 2006, une compétition sportive mondiale ouverte à tous, quel que soit leur genre ou leur orientation sexuelle. Cette déclaration a pavé le chemin vers les principes de Yogyakarta, qui ont posé en mars 2007 les principes de l'application du droit international des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Le plus dur reste à faire, que ces principes s'appliquent effectivement partout dans le monde. Et pour discuter de ces enjeux, je reçois Éric Pinault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Fierté Montréal, l'organisme responsable de l'organisation de la Semaine de la Fierté à Montréal. L'année 2013 a ainsi vu l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe dans plusieurs pays. Votre événement se tient forcément dans un esprit de fête, mais cette année aura-t-elle une saveur particulière ?
Disons que mes émotions sont vraiment partagées. Tout d'abord, on sait qu'aux États-Unis, la loi DOMA a été jugée anticonstitutionnelle. On sait aussi qu'en Angleterre ou au Royaume-Uni, le mariage entre personnes de même sexe vient d'être légalisé. Alors oui, c'est vraiment positif pour notre communauté. C'est un pas dans la bonne direction. Cependant, cette année, on a vu vraiment une tendance pernicieuse. Les gens se tournent vers l'extrême droite. On peut constater ce phénomène-là quand l'économie mondiale va plutôt mal, se tourner vers la droite. Mais bon, on voit ce qui se passe en Russie présentement. On voit ce qui se passe dans plusieurs pays d'Afrique. Il y a plus de 50 pays où le simple fait d'être gay, lesbienne, transgenre, bisexuel est punissable de peine d'emprisonnement, de châtiment corporel ou même de peine de mort. Alors, je crois que tant qu'il y aura ce genre de châtiment, ce genre de punition face à la communauté LGBT, il faudra poursuivre notre combat.
Bon, je rappelle également donc le DOMA Defense of Marriage Act qui n'était même plus défendu par le président Obama devant les cours. Diriez-vous qu'il y a un effet d'entraînement ou tout du moins un agenda qui promeut les droits humains pour les personnes LGBT? Je parle d'agenda dans le sens où, voilà, dans les années 60, il y a pu avoir un agenda pour les droits des minorités, par exemple aux États-Unis.
Ben, un agenda, une concertation. On sait très bien que les droits humains, les droits pour les personnes LGBT sont des droits humains. Si on revenait vraiment 60, 80 années en arrière, le racisme était chose commune. Aujourd'hui, pourtant, on sait que c'est complètement chose du passé, que ce serait vraiment pas acceptable. Je pense que peut-être dans 30, 40 ans, ce sera la même chose pour la communauté LGBT. On pourra rire en disant « Ah oui, on pouvait pas se marier, on pouvait pas adopter, nos droits étaient bafoués. » Mais pour le moment, ben, je pense que le travail doit se faire encore. Et ici, au Québec, oui, nous avons de la chance, nous avons atteint l'acceptation sociale, l'égalité juridique. Mais je pense que maintenant, notre regard doit se porter vers les autres pays, vers le monde entier, afin de les soutenir et de les appuyer.
Justement, sur ce point, est-ce que la question de l'avancée des droits des personnes LGBT ne peut être que nationale? Dans quelle mesure on peut faire en sorte que cette question ne soit pas uniquement nationale?
Dans un premier moment, je voudrais saluer la politique de lutte et le plan de politique de lutte à l'homophobie qui a été mis sur pied par le gouvernement provincial. Cette année, on a pu voir une campagne à la télé très convaincante où on voyait deux personnes de même sexe célébrer un anniversaire ensemble. Et pourtant, au Québec, on se dit, ici, tout est gagné, tout le monde nous accepte, tout va bien. Mais vraiment, les commentaires homophobes se sont retrouvés dans plusieurs médias sociaux. Ça m'a vraiment surpris et puis ça m'a prouvé qu'il y a encore du travail à faire encore ici. Il y a encore de l'intimidation dans les écoles et les jeunes LGBT commettent encore plus de suicides que la moyenne de la population. Alors, ici, au niveau local, provincial, national, il y a encore du travail à faire, malgré que nos droits sont maintenant protégés par des lois. Maintenant, quand nous allons à l'étranger, on rencontre des personnes qui sont impliquées dans le mouvement LGBT. Ils nous disent toujours « Continuez votre travail, continuez de tenir des festivals, c'est important. » Ça va vraiment changer les choses ici parce que nos dirigeants politiques voient ce qui se passe ailleurs et ça change leur mentalité peu à peu.
C'est important ce que vous dites là parce qu'on peut se demander, après tout, tous les droits, ou presque, bien sûr, ont été acquis. Pourquoi il y a encore besoin de faire des défilés? C'est une réponse que vous apportez. Je pense, puisqu'on avait eu l'occasion de se parler dans un tout autre contexte, par exemple, l'année dernière, vous receviez l'avocate camerounaise, me semble-t-il, Alice Ncom, qui disait « Mais ce genre d'événement, moi, ça me permet effectivement de revenir au Cameroun en disant « Voilà, il y a des choses qui se passent, des choses qui bougent ».
Oui, c'est toujours un plaisir pour nous d'apporter des gens, des militants qui œuvrent en terrain hostile. Ici, on œuvre en terrain facile, c'est amical, c'est convivial. Mais à chaque année, il est important pour Fierté Montréal d'apporter des militants qui œuvrent en terrain hostile. Cette année, nous aurons encore un Polonais qui sera parmi nous. Vous savez, là-bas en Pologne, il n'y a aucun droit pour les personnes LGBT et il y a beaucoup d'intimidation et beaucoup d'homophobie. Alors, nous serons très heureux. Nous avons été là-bas il y a quelques mois, lors de la levée du drapeau, le début de leur fierté là-bas. Et puis, c'est très important de poser des gestes comme ça. Puis, ça envoie un signal très clair que on est solidaires avec eux et on sera là pour les appuyer.
D'autant qu'en Europe de l'Est, alors certes, il commence à y avoir des marches des fiertés. Donc en Pologne, vous l'avez dit, dans certains Pays-Bas, pas tous. En Russie, ça n'est absolument pas le cas. On va le voir certainement dans la deuxième partie de l'émission. Je voulais vous demander également, est-ce qu'il existe une solidarité dans la communauté gay? Vous allez dire oui, bien sûr, mais jusqu'à quel point elle se situe? Est-ce que vous sentez qu'il est plus facile de pointer certains pays plutôt que d'autres, de mobiliser les gens?
Ben, il y a des très grands organismes LGBT, dont un, Fierté Montréal fait partie d'Interpride, qui est l'organisme qui vraiment s'occupe de chapeauter les fiertés partout dans le monde. Et il y a vraiment un travail de terrain et un travail communication qui se fait un peu partout dans le monde. Alors, Interpride se rend en terrain hostile. Interpride fait des communications. Interpride parle aux représentants et aux politiciens. Alors, cet organisme-là fait un travail très important. Il y en a de nombreux. Il y a ILGA, il y a Amnesty International. Tous ces organismes-là, il y a une solidarité internationale incroyable.
Dans le sigle, l'acronyme LGBT, il y a bien sûr le T, transsexuel, transgenre. Pour le coup, c'est vraiment une catégorie où il y a beaucoup à faire. Comment se situe la situation de ces personnes-là, y compris dans les pays développés?
Ben, pas besoin d'aller loin. Au Canada, présentement, le projet de loi C-279 est à l'étude par le Sénat et on croit que le projet ne sera pas accepté. Alors, ça ira pas plus loin. Alors, si vous comprenez qu'au Canada, on est comme ça, il y a un travail énorme à faire ailleurs. Souvent, ces personnes-là sont pas reconnues. Mais pourtant, dans d'autres pays homophobes, on va offrir la transition, la réassignation de genre comme traitement dans certains pays arabes. Quand on sait très bien que la dysphorie de genre est complètement différente d'une orientation sexuelle. Alors, il faut dire que de ce côté-là, pour les droits des personnes trans, tout est à faire.
C'est le cas également pour ce pays perse, l'Iran, qui persécute les homosexuels, mais où les opérations de réassignation sexuelle sont autorisées en effet. Le Monde en Partage se poursuit avec une première pause musicale de circonstance, lors de laquelle vous reconnaîtrez peut-être la voix de ce chanteur au cœur de loup.
l'Orient embrasser les tsarines et les bateliers. Même si l'hiver est grand, tandis qu'on a Lénine, cœur des armées, au pays rempli d'or, au pays d'outre idée. Où sont les amants quand l'amour se résigne, triste et mal caché? Et si je les entends, les mémoires qu'on mutile, tout dôme doré, pour tout vivre en silence, pour tout vivant. Alexis Marathon, les noces qui prospèrent sous sa veste, la nuit, la nuit. La Chine aux Balkans, sans qu'on me l'interdise, j'irai le trouver. Même s'il faut saluer les héros qu'on déguise. Qu'on emprisonne pour qu'on lui donne la clé. J'irai. Même s'il faut traverser les tableaux de Soutine, même défigurés. Dans le cirque des grands, ce sont les enfants qu'on drive.
C'était Philippe Lafontaine avec Alexis Matan, mais vous connaissiez sans doute mieux cet artiste en raison du grand succès de Cœur de loup, qui est extrait de ce même album d'ailleurs, Femme Anonyma, paru en 1989, l'année même où le chanteur wallon recevait le Félix de l'artiste de la francophonie. Vous êtes toujours à l'écoute du 5FM et Le Monde en Partage. On parle de la situation des personnes LGBT dans le monde avec Éric Pinault, président de Fierté Montréal. Alors, même si cette situation des personnes LGBT évolue juridiquement et parfois même socialement, dans le sens du respect de chacun, ce n'est pas le cas partout, et comme vous le disiez d'ailleurs tantôt, il demeure encore une soixantaine de pays qui considèrent toujours l'homosexualité comme un délit ou un crime passible de prison, voire de peine de mort. Reparlons de la Russie, si vous le voulez bien. Le cas de la Russie revient en fait régulièrement sur la table, mais depuis quelques semaines, le pays fait encore plus parler de lui en raison de cette loi qui vise, je cite, à condamner la propagande gay. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Éric Pinault?
Oui, alors, Monsieur Poutine récemment promulgué cette loi.
C'est une loi peut-être plutôt municipale, si je ne m'abuse, en fait.
Non, c'est une loi pour toute la Russie, oui.
Également, d'accord.
Ouais, qui interdit les gens d'être eux-mêmes, je dirais. Il est interdit de manifester pour la cause gay, bisexuelle, transgenre. Il est interdit d'afficher ses couleurs avec un drapeau arc-en-ciel. Et d'ailleurs, les organisateurs de telles manifestations s'exposent à de fortes amendes et les organismes à de plus fortes amendes encore. Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg parce que sur le terrain, on sait que les personnes LGBT sont continuellement victimes d'homophobie, de gestes homophobes. Et ce qui me chagrine vraiment, j'ai pu voir cette semaine sur YouTube des jeunes qui se font persécuter, qui se font battre. Tout ça filmé, retransmis, et les autorités ne font rien. Alors je pense que C'est inacceptable et d'ailleurs, on doit poser des gestes concrets ici pour faire connaître notre colère.
De plus en plus de personnalités politiques appellent en effet à poser des gestes concrets, mais aussi des personnalités du show business comme Stephen Fry ou George Takei qui ont appelé récemment au boycott des Jeux Olympiques de Sochi. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous?
Présentement, le momentum est vraiment avec nous. Puisque les Jeux olympiques se tiendront dans quelques mois en Russie, c'est un sujet très chaud, alors il faut profiter de cette plateforme-là afin de faire entendre le message. Puis je pense que ça serait dommage pour des athlètes que nous boycottons les Jeux. Ça serait très dommage. Ils s'entraînent toute une vie pour réaliser leurs rêves, pour gagner cette médaille olympique, pour performer. Je crois qu'il est temps encore de faire pression sur le gouvernement russe par différentes actions diplomatiques. Je crois vraiment que les pays du G20 ont vraiment une part à faire importante pour qu'on puisse faire changer ça.
Et cela passe plutôt, selon vous, par une pression vis-à-vis des autorités, un soutien vis-à-vis de ces communautés, de ces organismes qui luttent sur place?
Un des plus grands militants en Russie, Nikolai, qui est avocat,
Alexeyev,
oui, qui nous disait un des meilleurs moyens serait de demander au gouvernement d'interdire l'entrée des diplomates russes sur vos territoires. Là, il y aurait vraiment un effet concret. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'on appelle beaucoup aussi au boycott de produits russes. Je crois que ce qui est bon de ce côté-là, c'est qu'on parle de la problématique. Vraiment, les effets économiques vont être minimes. Mais parler de la problématique, c'est garder le sujet en vie dans les médias.
Faisons un pas de géant pour parler, si vous voulez bien, de l'Afrique, une autre région du monde où l'homophobie est encore très présente. Même si les mariages entre deux personnes de même sexe sont autorisés en Afrique du Sud, la situation est beaucoup plus préoccupante sur le reste du continent. Et le mois dernier, ainsi, on apprenait qu'un journaliste camerounais, Eric Oena Lembembe, par ailleurs directeur de la Fondation camerounaise de lutte contre le sida, avait été torturé et assassiné. Y a-t-il néanmoins des signes, des évolutions plus rassurantes ailleurs en Afrique?
Pas vraiment, ça stagne vraiment en Afrique. Et on sait qu'il y a beaucoup d'ONG qui subventionnent des partis politiques homophobes. Alors c'est très regrettable de fonctionner ainsi. Il y a 4 pays où encore la peine de mort est active contre les personnes LGBT. Il y a en Mauritanie, au Niger, au Soudan et en Somalie. C'est vraiment extraordinaire que de nos jours, où les droits humains devraient être acquis pour tous, qu'il y a encore des pays qui punissent le fait d'être soi-même par la peine de mort.
Parler des partis politiques, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a également les églises évangélistes qui ont un poids croissant en Afrique et qui imposent, je parlais d'agenda tantôt, leur propre agenda en l'occurrence, contre les droits humains, en particulier ceux des personnes LGBT. Terminons sur une note positive, j'ai vu dans la programmation de votre événement, La Fierté Montréal, donc, une vigile en soutien des personnes LGBT en Russie, c'est exact?
Oui, alors mardi le 13 à 20h30, devant le consulat de la Russie, nous invitons tout le monde à une vigile à la bougie, pacifique, où nous pourrons chanter des chants de paix, où il y aura des personnes russes qui pourront venir s'exprimer publiquement. Et le tout sera filmé et sera envoyé en Russie. On veut vraiment que le message passe, qu'ici on les soutient et qu'on est très, très solidaires à la cause. Il y a une très grande réponse. Déjà 1000 personnes ont confirmé leur présence. Alors, pour que vous savez c'est quoi les événements Facebook, c'est vraiment exceptionnel.
Merci beaucoup Éric Finot d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite évidemment une belle semaine de la fierté, mais surtout, je suppose, un beau soleil.
Oui, on souhaite du soleil pour la semaine prochaine.
Place à la revue de presse d'Aline Zalé, mais avant, puisqu'il est question de l'amour entre deux êtres, y compris s'il s'agit de deux « il » ou de deux « elle », voici une petite balade romantique pour adoucir les cœurs fragiles et ceux qui veulent voler haut dans le ciel.
Toi, la maison de mon cœur.
Toi, tu es mon aide, l'espoir, le vent qui m'emporte ailleurs.
Si toutes les îles avaient des ailes pour voler haut dans le ciel, on dirait ce monde est si toutes les ailes
se rêvait parfait.
Si on rêvait d'un peu plus d'amour
pour en faire.
Des îles et des ailes, c'était le duo à la vie comme à la scène formé par Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Elle est dans le studio à mes côtés comme chaque semaine pour sa revue de presse. Il s'agit d'Aline Zallé. Bonjour.
Bonjour Thibault. Aujourd'hui, on part faire un tour du monde des héros qui ont marqué l'actualité internationale de la semaine.
Et on commence avec la nouvelle super-héroïne de dessin animé au Pakistan.
Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de Jiya, la nouvelle héroïne du dessin animé Burka Avenger. Elle se bat à coups de cahiers et de crayons contre les politiciens corrompus qui veulent interdire l'éducation des filles, thème ô combien d'actualité au Pakistan. Comme tous les super-héros, elle porte un costume et pour elle, c'est une burqa. Cette nouvelle héroïne a tout pour terrasser les créatures des comics américains. Son combat semble inspiré de la vie de Malala, cette jeune pakistanaise miraculeusement sortie vivante en octobre 2012 d'une tentative d'assassinat. Tout comme Malala, l'héroïne de la série se bat pour construire des écoles et éduquer les filles. Mais pour les concepteurs du dessin animé, ce n'est qu'un pur hasard si la réalité rejoint la fiction.
J'imagine que cette héroïne portant la burqa a dû faire grincer quelques dents.
Le dessin animé a tout d'abord été critiqué par des féministes au Pakistan qui s'offusquent de voir une burqa donner du pouvoir aux femmes. Les islamistes ont également réagi car dans un pays où les talibans sont en force, l'usage de la burqa qui est fait dans le dessin animé est sacrilège. Le directeur artistique de la série, Youssef Ejaz, se défend de manquer de respect à la burqa et affirme avoir voulu intégrer un aspect de la culture locale pakistanaise.
Quoi qu'il en soit, ce dessin animé a fait beaucoup parler de lui cette semaine et semble avoir un avenir au-delà même des frontières du Pakistan.
Effectivement, si la série hebdomadaire de 13 épisodes diffusée depuis le 28 juillet sur la chaîne privée Geotiz était destinée au marché pakistanais, elle a rapidement attiré l'attention à l'étranger. Il semble que le monde souhaite en savoir davantage sur Burqa Avenger. Un distributeur européen souhaiterait en effet traduire le dessin animé en 18 langues, dont le français, et diffuser la série dans 60 pays.
Et on poursuit avec l'affaire Edward Snowden, dont il était question dans la deuxième émission. Cet informaticien de la NASA qui a fait trembler l'administration Obama ces derniers mois après avoir révélé un vaste programme d'espionnage téléphonique et informatique. Acte héroïque pour les uns, acte antipatriotique pour les autres, tout dépend du point de vue duquel on se place.
Cette semaine, on a appris qu'Edward Snowden a quitté la zone de transit de l'aéroport de Moscou, où il avait passé un mois en attendant sa demande d'asile. L'affaire est revenue sur le devant de la scène car le président américain Barack Obama a annoncé vendredi qu'il allait travailler avec le Congrès pour réformer la disposition du Patriot Act prévoyant la collecte des métadonnées téléphoniques par la NSA. Le président américain a en outre annoncé qu'un responsable de la vie privée allait être nommé à la NSA, ajoutant que l'administration allait déclassifier des documents sur le renseignement. Le chef d'État américain a précisé que les États-Unis ne souhaitaient pas espionner les citoyens ordinaires, ajoutant qu'il n'y avait pas d'abus à l'heure actuelle dans le programme de surveillance. Depuis le début de l'affaire Snowden, et vu l'émotion qu'elle a provoquée aux États-Unis et à l'étranger, le président américain a répété que la surveillance des communications électroniques était légale et qu'elle avait contribué à sauver des vies en empêchant des attentats. Il a aussi assuré à ses compatriotes que personne n'écoutait leur rappel téléphonique. Barack Obama a promis vendredi une nouvelle ère dans le renseignement.
Et on termine en Australie avec des kangourous qui sauvent la vie d'un petit garçon.
Le petit Simon Kruger, 7 ans, a été retrouvé dimanche, près de 24 heures après sa disparition dans le parc de Deep Creek, dans le sud-est de l'Australie. Le petit garçon, qui déjeunait dans le parc avec ses deux parents et son petit frère, s'est éloigné et est entré dans la proche forêt pour cueillir des fleurs et les offrir à sa mère. Les parents ont donc donné l'alerte et un important dispositif de recherche a été mis en place. Lorsque l'enfant a été retrouvé, il aurait, selon le journal The Australian, tout de suite dit à son père que tout allait bien et qu'il avait dormi sous un arbre avec des kangourous. D'après leur père, un kangourou se serait approché de l'enfant, lui aurait mangé les fleurs qu'il avait cueillies et il se serait endormi auprès de lui. L'animal, malgré lui, a fait preuve d'un acte héroïque en restant auprès du petit garçon. Cela lui a permis d'avoir chaud et de passer la nuit dans cette zone où la température ne s'élève pas à plus de 6 degrés la nuit.
Une mésaventure qui se termine heureusement bien et qui va peut-être donner des idées, qui sait, à un producteur de cinéma. Voilà qui met fin au Monde au Partage pour aujourd'hui. Je profite de cette antenne pour vous signaler que Radio Centre-Ville participe au 30e séminaire international de la marque, l'Association mondiale des artisans des radios communautaires. L'événement se tient le 15 août à l'UQAM et il y sera notamment dessiné la manière dont les radios communautaires contribuent au local comme au global à un développement social et humain harmonieux. Alors si vous êtes intéressé par ces enjeux, chers auditeurs, les renseignements seront disponibles également sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com. Vous y trouverez également toutes les références concernant cette émission et notamment des liens vers des ressources pour aider les personnes LGBT. Je vous rappelle enfin que cette émission est réécoutable en ligne ou en balado-diffusion. C'était Thibaut Temmerman à la réalisation. Merci encore à notre invité de ce jour, Eric Pinault, ainsi qu'à Aline Zallet pour la revue de presse. Vous retrouverez le magazine Centre-Ville juste après la pub. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission et d'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville. Nous nous quittons sur cette chanson éponyme du dernier album de Caetano Veloso, le Bob Dylan brésilien, Abraça.
Hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Sério, um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho, desfaço. O acaso é o grão, Senhor. Tudo que não deu certo, sei que não tem conserto. Meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço.